Histoire à contre-courant, une émission proposée par Anne Bernet.
Chers auditeurs, je rappelle que nous sommes avec Loïc Chollet, que nous évoquons son livre « Dernière croisade » paru aux éditions Vendémiaire. Alors Loïc Chollet, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons plusieurs fronts, plusieurs raisons de combattre, et puis des gens qui vont s'illustrer dans ces combats. Il y a un personnage moi, que je trouve extrêmement intéressant. On en parle très peu parce qu'il fait en fait presque la liaison avec la Renaissance. Et c'est quelqu'un de fascinant. C'est Jean de Bettencourt. Jean de Bettencourt est là à la conquête des Canaries. Et comment en arrive-t-on là? Est-ce qu'on peut encore parler lorsqu'il s'agit finalement de conquérir une terre qui est quasi incognita? Est-ce qu'on peut encore parler de croisade?
Alors effectivement, Jean de Bettencourt, c'est un personnage tout à fait fascinant, déjà par son nom, qui est encore lié à la grande famille des Bettencourt, et ça c'est assez rare pour les médiévistes de travailler avec des personnes dont rien que le nom évoque encore quelque chose aux yeux de mon contemporain. Mais c'est un caractère qui est surtout... fascinant justement parce que, comme vous dites, il fait le lien entre les croisés médiévaux et les conquistadors. Alors, pour situer ce personnage, donc, déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les croisades ne s'arrêtent pas en 1291 avec la chute de Saint-Jean d'Acre, mais le mouvement continue parce qu'il y a d'autres fronts, il y a d'autres activités guerrières que la Terre Sainte, donc... Et l'engouement de la noblesse est toujours là. C'est vraiment dans l'esprit chevaleresque qu'il faut aller, en quelque sorte, se montrer sur les fronts de croisade, que ce soit dans la Baltique, que ce soit en Méditerranée ou en Espagne. Et alors, Jean de Bettencourt est lui-même dans cette optique-là. D'ailleurs, il n'est pas, à la base, il n'est pas le seul chef de l'expédition des îles Canaries. Mais il s'est associé avec un autre chevalier qui est plus âgé que lui, qui s'appelle Gadifer de la Salle. Alors Gadifer de la Salle est lui aussi un personnage très intéressant. Parce que Gadifer, c'est vraiment le chevalier à l'ancienne, qui a participé à plusieurs croisades dans la Baltique. Il a fait l'expédition contre la ville portuaire de Mahdia, en actuelle Tunisie. Donc il était vraiment un petit peu partout. Il était à la cour du roi Charles VI, c'était quelqu'un qui s'intéresse à la littérature. D'ailleurs, au moment de partir dans les îles Canaries, il a pris avec lui des romans de chevalerie, comme ce que feront d'ailleurs les futurs conquistadors. Donc on voit vraiment un lien très intéressant. Et donc ce chevalier à l'ancienne, Gallifère de la Salle, et semble-t-il accosté par notre Jean de Bettencourt. Donc il a vraisemblablement fait la connaissance, d'ailleurs, lors de l'expédition maritime contre Mahdia, donc l'une de ces grandes croisades de la fin du Moyen-Âge. Alors Jean de Bettencourt, lui, présente un profil un petit peu particulier parce qu'il est également investi dans les affaires. Bon, c'est un grand seigneur qui est possessionné dans le pays de Caux en Normandie, et c'est une terre où il y a une activité teinturière. Donc c'est quelqu'un qui, semble-t-il, s'intéresse également au commerce. Ce qui n'était pas, a priori, le cas de Gallifère de la Salle. Alors, ces deux chevaliers s'associent, montent leur expédition, semble-t-il, sans aucun subside, donc ils partent avec leur propre argent et pas en ayant été financés par le roi ou par le duc de Bourgogne. Ils obtiennent des bulles pontificales pour valider leur expédition. Ils placent leur expédition sous le sceau de la croisade, si j'ose dire, en disant que c'est pour aller étendre la foi chrétienne. Et ils obtiennent également, au moins une aide au moins théorique, une protection juridique de la part du roi de Castille. Puis ils partent aux Canaries. En fait, on connaît leurs aventures essentiellement par ce qu'en ont raconté leurs chapelains respectifs, parce que d'abord, le chapelain de Gallifère de la Salle a écrit une chronique sur la conquête des îles Canaries. Et puis, les deux hommes se sont disputés. Jean de Bettencourt a évincé Gallifère, qui a dû rentrer en France. Et le neveu, professeur de Jean de Bettencourt, a lui-même écrit ou fait écrire la version, on va dire, Bettencourt de la chronique. Donc, déjà, c'est assez compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en analysant ces deux chroniques, on arrive à voir les motivations des acteurs. Alors, avec la diverse de la Salle, on est vraiment dans l'esprit chevaleresque. Hein. Il raconte ça comme une aventure presque digne de Tristan, de Lancelot, de Gauvin, avec des références littéraires. C'est vraiment un combat pour la foi.
On est dans l'univers arthurien, quasiment.
Complètement dans l'univers arthurien, dans l'univers des croisades. C'est une sorte de il fait des clins d'œil à Godefroy de Bouillon. Enfin, c'est vraiment cet univers-là. Alors que chez Jean de Bettencourt, on est beaucoup plus dans une optique, on va dire, commerciale, terre à terre, où il a parlé, enfin, la personne qui a mis en vers ou mis en prose la chronique pour les Bettencourt. Alors lui, il parle plutôt de l'orzeille, qui est une plante que l'on, enfin, une chêne que l'on retrouve sur les îles Canaries et qui est utilisée pour l'industrie des textiles.
Mais c'est une plante tinctoriale.
Pardon, voilà, exactement, exactement. Et du coup, on arrive à voir, en fait, que les intérêts des Bettencourt sont beaucoup plus orientés vers le commerce. D'ailleurs, et ça c'est très intéressant, Jean Bettencourt va évincer Gallifère. Il va réussir à obtenir de la part du roi de Castille le titre de vice-roi des îles Canaries. Donc il devient vraiment le seul patron sur les îles Canaries, ou en tout cas les îles qui avaient été conquises par les Français, parce que la plupart des îles de l'archipel restent aux mains des habitants. Et Bettencourt revient en France, et là il va recruter des colons. Il va sur ses terres de Normandie qui avaient été mises à mal par la guerre de Cent Ans. Et là, il demande aux gens, en disant, ben voilà, moi j'ai quelque chose à vous proposer. Je vais vous donner un statut supérieur aux habitants des îles Canaries, y compris aux chrétiens. Donc vous serez privilégiés. Et vous aurez des privilèges, vous aurez... Alors là, il a remis un véritable pays de cocagne. Hein, à le croire, les îles Canaries, c'est vraiment un pays où la terre est riche, où les fruits poussent quasiment sans travailler. Enfin, c'est le fait, une véritable publicité.
Ce sont les îles fortunées de l'Antiquité.
Oui, voilà, exactement, totalement, totalement. Donc on joue aussi sur ce mythe-là. Et apparemment, il y a quelques familles qui le suivent. Et ensuite, tout disparaît parce que lui, finalement, il doit rentrer en France. Ensuite, il y a la bataille d'Azincourt, la guerre de Cent Ans reprend. Et il semble ne plus s'investir personnellement dans les îles Canaries, mais il envoie un de ses neveux qui devient le nouveau gouverneur. Ensuite, par manque de sources, on ne sait pas exactement comment cette aventure se termine. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, comme vous l'avez dit, le continuum, en quelque sorte, avec ces deux personnages entre les croisades, disons, médiévales et les expéditions des conquistadors en Amérique du Sud.
Cela dit, les ambitions territoriales et commerciales n'ont jamais été complètement absentes de l'esprit de croisade, quand on pense notamment aux Génois ou aux Vénitiens.
Oui, tout à fait. Et moi, qui, comme on l'avait dit en introduction, ma première spécialisation, c'est la croisade balte. Et là, je peux faire un parallèle entre la tentative de conquête des îles Canaries et la conquête de la Baltique par les chevaliers teutoniques. C'est que les chevaliers teutoniques, qui eux aussi étaient dans une entreprise de croisade, de conversion, avant le christianisme à la fin de l'été, eh bien, les chevaliers teutoniques n'ont pas oublié de s'attribuer le monopole sur le commerce de l'ambre. Donc, au fond, j'ai envie de dire que d'être cours de croisée idéale ne permet pas, n'interdit pas d'avoir des conditions tout à fait terrestres.
Mais les Teutoniques sont d'ailleurs passablement embarrassés lorsque le roi Jagellon se convertit en épousant la princesse Edwige de Pologne. Ça met un terme à une entreprise somme toute assez fructueuse.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas antinomique pour la mentalité médiévale d'être à la fois dans une optique, on va dire, un petit peu idéalisée de conquête pour la foi, de croisade, d'honneur, et en même temps d'avoir des ambitions temporelles. C'est, d'ailleurs, même le pape Innocent III, qui est peut-être le pape le plus important de l'histoire médiévale, valide tout à fait ça en disant que tant que la croisade a pour première ambition le service de Dieu, eh bien, si les croisés s'enrichissent à titre personnel, ben, tant mieux pour eux, et ils ne voient pas le problème.
Mais le temps va nous manquer pour tout évoquer, Loïc Chollet. Est-ce que nous pourrions revenir un instant sur un autre front qui apparaît après l'arrivée des Ottomans en Europe, après la prise de Gallipoli? Vous évoquiez la Bourgogne tout à l'heure, c'est cette très malheureuse expédition du duc de Nevers, le futur Jean sans peur, qui va se terminer en 1396 par un épouvantable désastre à Nicopolis, mais qui est marqué également d'ailleurs par des atrocités du côté des chevaliers français et bourguignons.
Oui, donc effectivement, ça c'est une des expéditions les plus marquantes des croisades de la fin du Moyen-Âge, qui était mal préparé depuis le début, puisque la force directrice derrière cette expédition, c'est le duc de Bourgogne, donc le père de Jean de Nevers. Jean de Nevers, c'est le futur Jean sans peur.
Philippe le Hardi.
Voilà, exactement, c'est son père, Philippe le Hardi, et qui décide de placer son fils comme chef du contingent franco-bourguignon. Et il lui colle, si j'ose dire, quelques chevaliers expérimentés qui doivent le conseiller. Mais le conseiller, ça ne veut pas dire le diriger.
Mais le duc de Nevers est un très jeune homme, il a 22 ou 23 ans.
C'est un très jeune homme qui n'a aucune expérience réelle du combat, qui est bourré d'idéaux chevaleresques comme quasiment tous les jeunes nobles de son âge. Et surtout, le plan de bataille qui a été validé par Philippe le Hardi, préparé à Paris, donc très loin
de la réalité du terrain.
Très loin de la réalité du terrain, et bien le plan de bataille prévoyait justement que les chevaliers français soient les premiers à ouvrir les hostilités. Or, quand les Français arrivent sur le terrain à. Parce que maintenant, la Bulgarie, donc la Nicopolis, c'est une expédition internationale. On a une force franco-bourguignonne, mais on a aussi la principale armée est composée de Hongrois et de Valaques, c'est-à-dire donc les Valaques correspondent aux Roumains actuels. Et le chef de l'expédition de la coalition, c'est le roi d'Hongrie, Sigismond de Luxembourg, et qui, lui, connaît bien le terrain. Il sait exactement, il a déjà l'habitude de combattre contre les Turcs. Et lui, son avis, c'est plutôt de se reposer sur les Valaques, qui sont en première ligne, et dont le chef, Mircea, a déjà battu les Turcs l'année précédente. Donc on dit, le Sigismond d'Anglie est plutôt d'avis qu'il faut laisser les Valaques ouvrir les hostilités.
Ce qui est insupportable pour l'orgueil français.
Voilà, exactement. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait, d'après les chroniques de l'époque, et là on peut vraiment confronter les sources françaises, bourguignonnes, mais aussi hongroises, grecques, puisqu'on a même des échos dans une chronique grecque beaucoup plus tardive, mais qui reprend quand même l'essentiel des informations. Et du coup, on sait qu'il y a eu un débat très vif entre les commandants de l'armée française, où on a des vieux chevaliers qui sont plutôt d'avis qu'il faut écouter l'avis du roi de Hongrie, et les jeunes qui, eux, disent non, il faut foncer. L'honneur des forteresses l'exige. Or, c'est ce qui est fait, et ça se finit effectivement par un immense désastre. On a un nombre impressionnant de tuer. La chevalerie française se fait massacrer par les soldats du sultan. Et les prisonniers qui sont capturés à la fin de la bataille sont exécutés.
Et il faut dire que ce sont des représailles, étant donné qu'on a déjà massacré les prisonniers turcs avant la bataille.
Alors oui, mais il y a quand même toujours un petit problème pour les historiens quand on évoque ce sujet-là, c'est que, bon, à moins qu'une source ne soit passée sous mon radar, mais je serais assez surpris, il me semble que le massacre des prisonniers turcs par les chrétiens n'est évoqué que par une seule chronique française, la chronique des religieux de Saint-Denis.
Qui d'ailleurs est bouleversée.
Ah, mais totalement bouleversée. Bon, a priori, ça paraît crédible. On sait que des massacres de prisonniers, il y en a eu dans des situations de panique, d'urgence.
Et même entre chrétiens, qu'arrive-t-il à un cours des prisonniers français?
À un cours, les prisonniers français sont massacrés. On a des témoignages épouvantables à ce sujet-là, donc on sait que ça se faisait. Ce qui fait qu'a priori, je pense qu'on peut faire confiance à la chronique du religieux de Saint-Denis. Et ce qui est intéressant, c'est que, comme vous le dites, il est totalement bouleversé. Pourtant, lui, c'est un moine, c'est un ecclésiastique. Donc on pourrait l'imaginer un petit peu dans cet esprit de croisade, voilà. Alors que lui, pas du tout. Il n'est pas du tout dans cette optique-là. Pour lui, les Turcs sont certes des infidèles, mais ce sont quand même des adversaires. Ce sont des soldats qui auraient droit au respect. Et pour lui, des soldats qui se constituent prisonniers, on doit respecter leurs droits.
Mais il y a un droit de la guerre à respecter.
Il y a un droit de la guerre à respecter. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très bien que pour lui, le droit de la guerre n'est pas uniquement applicable entre chrétiens, mais qu'on doit également l'appliquer à des infidèles. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'il décrit, alors lui, il reprend les arguments des auteurs du massacre en disant, en gros, ben, voilà, plus on en tue, moins on en fait, etc. Et lui, il dit, mais ça, c'est tout à fait cynique, c'est tout à fait épouvantable, c'est condamnable d'avoir ce genre de propos. Rien ne justifie le fait que l'on massacre des prisonniers qui s'étaient rendus.
Loïc Chollet, un grand merci pour cette intervention. Je rappelle que votre livre est paru aux éditions Vendémiaire, Dernière croisade, le voyage chevaleresque en Occident à la fin du Moyen-Âge. C'est passionnant, c'est une découverte, vous venez de nous le démontrer. Merci réellement et j'espère à une autre occasion.